Chapitre 7. Il vaut mieux exercer un métier que d'être à charge aux siens ou que de vivre dans la misère et dans l'oisiveté. Quand ses amis se trouvaient dans l'embarras par ignorance, il essayait de les en faire sortir par ses conseils. Lorsque c'était par pauvreté, il leur enseignait à se secourir autant que possible les uns les autres. Je dirai aussi ce que je sais de lui à ce sujet. Voyant un jour Aristarque plongé dans la tristesse, « Tu m'as l'air, Aristarque, lui dit-il, d'avoir quelque chose qui te pèse. Il faut partager le fardeau avec tes amis. Peut-être trouvons-nous moyen de te soulager. » « Ma foi, Socrate, répondit Aristarque, je suis dans un grand embarras. Depuis que la ville est en sédition et qu'un grand nombre de citoyens se sont retirés au Pirée, mes sœurs, mes nièces, mes cousines, qui se trouvaient abandonnées, se sont sauvées chez moi, si bien que nous sommes à la maison 14 personnes de condition libre. Nous ne retirons rien de la terre, car les ennemis en sont devenus maîtres, ni de nos maisons, puisque la ville est presque sans habitants. Personne n'achète de meubles, on ne trouve nulle part emprunter de l'argent. C'est au point qu'il serait plus facile, en cherchant, de rencontrer de l'argent dans la rue, qu'un prêteur qui vous en fournit. Oh, il est bien triste, Socrate, de voir autour de soi des parents dans la détresse. Il est impossible de faire vivre tant de monde dans de pareilles circonstances. À ces mots, Socrate, « Mais comment se fait-il donc, dit-il, que ces Ramons, qui a aussi beaucoup de monde à nourrir, suffisent non seulement à leurs besoins et aux siens, mais mettent encore de l'argent de côté et qu'ils s'enrichissent ? Tandis que toi, parce que tu as plusieurs personnes à faire vivre, tu as peur que vous ne périssiez tous faute du nécessaire. C'est ma foi, parce qu'il nourrit des esclaves, et moi des gens libres. Lesquels crois-tu donc les plus estimables ? Des gens libres qui sont chez toi ou des esclaves qui sont chez Séramon ? Mais je pense que ce sont les gens libres qui sont chez moi. N'est-il donc pas honteux que Séramon vive dans l'abondance avec des hommes de rien, tandis que toi, qui as des personnes beaucoup plus estimables, tu es dans le dénuement ? Non, par Zeus, car il nourrit des artisans, et moi des personnes qui ont reçu une éducation libérale. Les artisans ne sont-ils donc pas ceux qui ont appris à faire quelque chose d'utile ? Assurément. La farine n'est-elle pas chose utile ? Oh, tout à fait. Et le pain, tout autant. Eh bien, et les vêtements d'hommes et de femmes, les tuniques, les chlamydes, les exomides ? Tout cela est fort utile. Et les personnes qui sont chez toi ne savent rien faire de tout cela ? Au contraire, elles savent tout faire, je crois. Eh bien, ne vois-tu donc pas qu'en exerçant une de ces industries, en faisant de la farine, Nocicides ne se nourrit pas seulement lui et ses esclaves, mais un grand nombre de porcs et de bœufs, et qu'ils mettent à cette côté pour s'acquitter souvent des prestations publiques. En faisant du pain, Cyrénus nourrit toute sa maison et vit largement. Déméas de Colite en faisant des chlamydes, mais non, des chlamydes, la plupart des mégariens, des exomides, souvent de quoi se nourrir. Oui, par Zeus, mais tous ces gens-là achètent des esclaves barbares, qu'ils forcent de travailler à leur guise, tandis que moi j'ai affaire à des personnes libres, à des parentes. Comment ? Parce qu'elles sont libres et tes parentes, penses-tu qu'elles ne doivent rien faire que manger et dormir ? Vois-tu que les autres personnes libres qui vivent dans une telle oisiveté aient une meilleure existence ? Trouves-tu qu'elles soient plus heureuses que celles qui s'occupent des choses utiles qu'elles savent ? Te semble-t-il que la paresse et l'oisiveté aident les hommes à apprendre ce qu'ils doivent savoir, à se rappeler ce qu'ils ont appris et à donner à leur corps la santé et la vigueur ? À acquérir et à conserver tout ce qui est nécessaire à la vie, tandis que le travail et l'exercice ne servent de rien ? Ont-elles appris ce que tu dis qu'elles savent comme des choses inutiles à la vie et dont elles n'auront que faire ? Ou au contraire, pour s'en occuper un jour et en tirer parti ? Quels sont donc les hommes les plus sages ? De ceux qui restent dans l'oisiveté ou qui s'occupent de choses utiles ? les plus justes de ceux qui travaillent ou qui, sans rien faire, délibèrent sur les moyens de subsister. Mais en ce moment, j'en suis sûr, tu ne peux aimer tes parentes, et elles ne peuvent t'aimer. Toi, parce que tu les regardes comme une gêne pour toi, elles, parce qu'elles voient bien qu'elles te gênent. Tout cela, il est à craindre qu'il ne résulte une haine d'autant plus vive et que la reconnaissance du passé ne soit amoindrie. Mais si tu leur imposes une tâche, tu les aimeras en voyant qu'elles te sont utiles, et elles te chériront à leur tour en s'apercevant qu'elles te contentent. Le souvenir du passé vous sera plus agréable. Votre reconnaissance s'en augmentera et vous deviendrez ainsi meilleurs amis et meilleurs parents. S'il s'agissait pour elle d'une action honteuse, la mort serait préférable. Mais aujourd'hui, tes parents ont, à ce qu'il paraît, des talents très honorables pour elle, ce qui convient le mieux à une femme. Or, ce qu'on sait bien, tout le monde le fait facilement et vite, avec adresse et avec plaisir. N'hésite donc pas à leur proposer un parti qui te sera avantageux autant qu'à elle, et qu'elles embrasseront sans doute avec joie. Au nom des dieux, Socrate, reprit Aristarque, ton conseil me semble excellent. Je n'oserais pas emprunter, et sachant bien qu'après avoir dépensé ce que j'aurais reçu, je n'aurais pas de quoi rendre. Maintenant, pour la mise en œuvre, je crois pouvoir me décider à le faire. Aussitôt dit, on se procure des fonds, on achète de la laine. Les femmes dînaient en travaillant, soupaient après le travail. Et la gaieté avait succédé à la tristesse. Au lieu de se regarder en dessous, on se voyait avec plaisir. Elles aimaient Aristarque comme un protecteur, et Aristarque les chérissait pour leur service. Enfin, celui-ci vint gaiement conter l'aventure à Socrate, et lui dit que ses parents lui reprochaient d'être le seul de la maison qui mangea sans rien faire. « Hé !» dit Socrate. « Que leur contes-tu la fable du chien ?» On dit que du temps que les bêtes parlaient, la brebis dit à son maître, « Ta conduite est bien étrange. Nous qui te fournissons de la laine, des agneaux, du fromage, tu ne nous donnes rien que nous ne soyons obligés d'arracher à la terre. Et ton chien, qui ne te rapporte rien, tu partages avec lui ta propre nourriture. » Le chien, qui l'avait entendu, lui dit « Il a raison, par Zeus, car c'est moi qui vous garde et qui vous empêche d'être enlevé par les hommes ou ravi par les loups. Si je le veillais sur vous, vous ne pourriez paître dans la crainte de périr. » On ajoute alors les brebis qu'elles consentirent à ce que le chien leur fût préféré. Va donc dire aussi à tes parentes que tu les gardes et que tu les surveilles comme le chien de la fable, et que grâce à toi, elles ne sont insultées par personne, et qu'elles peuvent, sans crainte et sans chagrin, continuer leur laborieuse existence. Chapitre 8. Socrate engage le journalier Euter à choisir un genre de vie plus convenable. Un jour, après une longue séparation, il rencontra un autre vieux camarade. « D'où viens-tu, Euter ?» lui dit-il. « Sur la fin de la guerre, Socrate, je suis revenu d'un voyage, et maintenant me voici. J'ai perdu les biens que j'avais au-delà des frontières. Mon père ne m'a rien laissé en Attique, et je suis forcé aujourd'hui, à mon retour, de faire œuvre de mes mains pour me procurer le nécessaire. Cela m'a paru meilleur que de rien demander à personne, d'autant que je n'ai rien sur quoi je puisse emprunter. » « Et combien de temps crois-tu que ton corps ait la force de travailler pour te procurer le nécessaire, moyennant un salaire ?»« Oh, pas longtemps, ma foi. » »« Cependant, quand tu seras vieux, il est évident que tu auras à faire des dépenses et personne ne voudra te payer pour tes services manuels. »« Tu dis vrai. » »« Ne vaudrait-il donc pas mieux t'occuper dès à présent de travaux qui puissent encore te soutenir dans ta vieillesse ?» T'adresser à un homme qui a de grandes propriétés, qui a besoin de quelqu'un pour les régir, surveiller les travaux, l'aider à rendre les récoltes, à conserver son avoir, lui rendre service pour service. J'aurais peine, Socrate, à endurer l'esclavage. Pourtant, ceux qui sont dans la tête des cités et qui dirigent les affaires publiques ne sont pas regardés pour cela comme plus esclaves que les autres hommes. On les croit au contraire plus libres. Enfin, Socrate, je ne veux pas du tout m'exposer à recevoir des reproches. Certes, Terre, il n'est pas facile de trouver un travail qui n'expose pas aux reproches. Quoi qu'on entreprenne, il est difficile de ne pas faire de fautes. Il est encore difficile, quand on n'en fait pas, de ne pas rencontrer un juge inepte. Aussi, je m'étonnerais que, dans ce que tu dis faire aujourd'hui, il fût aisé de se mettre à l'abri du blâme. Il faut donc essayer d'éviter les gens pointilleux et rechercher ceux qui ont l'esprit bien fait, te charger de tout ce que tu peux faire, te défier de ce que tu ne peux pas et exécuter le mieux possible et de grand cœur tout ce que tu auras entrepris. Je crois qu'en agissant ainsi, tu t'exposeras fort peu aux reproches, tu trouveras des ressources contre l'indigence, tu vivras sans peine et sans crainte et jusqu'à ta vieillesse, tu auras largement de quoi te suffire. Chapitre 9. Socrate indique à Criton le moyen de se mettre à l'abri des sycophantes. Il entendit un jour, moi présent, Criton se plaindre que la vie était difficile à Athènes pour un homme qui voulait s'occuper tranquillement de ses affaires. « Aujourd'hui, disait-il, il y a des gens qui m'attendent des procès, non parce que je leur fais du tort, mais parce qu'ils se figurent que j'aimerais mieux donner de l'argent que de me créer des embarras. » « Alors, Socrate, dis-moi, Criton, répondit-il, tu nourris des chiens pour écarter les loups de tes brebis ?»« Certainement, je trouve plus d'avantages à en nourrir qu'à n'en point avoir. Ne consentirais-tu donc pas à nourrir aussi un homme qui voulut et qui put écarter de toi ce qui essaie de te nuire ?»« Volontiers, si je ne craignais qu'il ne se tournât aussi contre moi. » Et quoi, ne vois-tu pas qu'il y a plus d'agrément et de profit à servir un homme tel que toi qu'à s'en faire un ennemi? Sache bien qu'il y a ici nombre de ces hommes qui ambitionneraient de t'avoir pour ami. À la suite de cet entretien, il trouve Archédème, citoyen capable de penser et d'agir, mais pauvre. Ce n'était pas en effet un homme à tirer parti de tout. Il aimait le bien, il avait l'âme trop haute pour se laisser corrompre par l'argent des sycophantes. Dès lors, toutes les fois que Criton rapportait du blé, de l'huile, du vin, de la laine ou quelques provisions, des choses nécessaires que fournit la campagne, il en donnait une partie à Archédème. Lorsqu'il offrait un sacrifice, il l'invitait et ne le négligeait en aucune de ses rencontres. Ainsi Archédème, qui regardait la maison de Criton comme un refuge assuré, s'attacha complètement à lui. Il eut bientôt découvert que les sycophantes qui poursuivaient Criton étaient chargées de crimes et avaient de nombreux ennemis. Il en appela un en justice, par devant le peuple, pour être condamné à une punition corporelle ou à une amende. Cet homme, qui avait la conscience de ses méfaits, mit tout en œuvre pour se débarrasser d'Archédème. Mais Archédème ne le lâcha point qu'il eût laissé Criton en paix et qu'il lui donné à lui-même quelque argent. Archédème se conduisit de la même manière dans plusieurs circonstances semblables. Alors, comme il arrive que, quand un berger a un bon chien, les autres bergers s'empressent de placer auprès de lui leur troupeau pour profiter aussi de ce chien, ainsi les amis de Criton le prièrent de les mettre comme lui sous la garde d'Archédème. Archédème obligeait donc Criton de bon cœur, et non seulement Criton vivait en paix, mais encore tous ses amis. Puis lorsque les ennemis d'Archédème lui reprochaient de s'être fait par intérêt le flatteur de Criton, « De quel côté est la honte ?» répondait Archédème. Ou d'entretenir avec des hommes vertueux un échange de services réciproques, de s'en faire des amis et de s'opposer aux méchants, ou de tout faire pour nuire aux gens de bien et de s'attirer ainsi leur inimitié, et de faire au contraire cause commune avec les méchants, d'essayer de s'en faire des amis et de préférer leur commerce à celui des honnêtes gens. De ce moment, Arkédème fut un des amis de Criton, et les autres amis de Criton l'eurent en estime. Chapitre 10. Il engage Diodore à secourir Hermogène dans la pauvreté. Je sais encore qu'il eut cette conversation avec Diodore, un de ses amis. « Dis-moi, Diodore, si un de tes esclaves prenait la fuite, chercherais-tu à le ravoir ?»« Ah, et même, par Zeus, j'y engagerais les autres en faisant annoncer une récompense pour qu'il le ramènerait. »« Eh bien, si un de tes esclaves tombait malade, n'aurais-tu pas soin de lui, n'appellerais-tu pas des médecins pour l'empêcher de mourir ?»« Oui, certes. Et si un homme de ta connaissance, bien plus utile que tes esclaves, courait risque de périr de besoin, ne penses-tu pas qu'il serait de ton devoir de t'occuper de lui, de le sauver ? Or, tu sais qu'Hermogène n'est pas un ingrat, qu'il rougirait de recevoir de toi des services sans t'en rendre à son tour. Cependant, un homme qui te servirait de bon gré, avec dévouement et constance, qui serait toujours prêt à exécuter tes ordres, et non seulement prêt à les exécuter, mais à agir de lui-même, à prévenir et à prévoir, cet homme-là, je crois, vaudrait un grand nombre d'esclaves. Les bons économes recommandent, quand une denrée précieuse est à bas prix, de saisir l'occasion de l'acheter. De même, par le temps qui court, on peut, à peu de frais, se procurer de bons amis. Alors, dit Odor, « Tu as raison, Socrate, dit-il. Prie Hermogène de venir me trouver. Non, par Zeus, je n'en ferai rien, car je pense qu'au lieu de l'appeler, il sera mieux de ta part d'aller vers lui, et qu'il n'ira pas plus que toi à cette démarche. » Diodore se rendit en hâte près d'Hermogène, et, sans qu'il lui en coûtât beaucoup, il gagna un ami qui se faisait un devoir de ne rien dire et de ne rien faire, qui ne fut utile et agréable à Diodore.